BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, Donald Trump qui commence déjà à faire du dégât. Il a dit la nuit dernière, il a confirmé que dès qu'il entrerait en fonction, il passerait vite à l'action sur les droits de douane. Ça a fait du dégât en bourse sur le secteur auto. On va vous raconter ça dans un instant. La bonne nouvelle du soir, c'est que Bruxelles a dit oui. Bruxelles a validé notre plan de vol pour réduire nos dettes et nos déficits d'ici les prochaines années. On va voir ça avec Thomas Asportas. On regarde tout ça dans un instant dans le journal. Et puis avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, bien sûr. Avec eux, on parlera aussi du gouvernement Barnier, toujours en sursis. Michel Barnier fait d'ailleurs le 20h de TF1 tout à l'heure. Alors que tout le monde commence déjà à nous expliquer que même si le budget n'était pas voté, même si le gouvernement tombait, eh bien, il n'y aurait là-dedans rien de catastrophique. Ben, on verra notamment ce qu'en dit l'intéressé ce soir. Nous, en tout cas, on est là jusqu'à 20h sur BFM Business. À tout de suite.
Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr.
Good Evening Business, le journal.
Donc Donald Trump, qui l'a confirmé cette nuit, une fois président, il augmentera très vite les droits de douane. Ils seront à 25% sur tous les produits qui arrivent du Canada et du Mexique. Bonsoir Justine Vassong, ça n'a pas fait du bien au secteur automobile tout ça aujourd'hui, Justine?
Stellantis, le plus américain des constructeurs français, vient de terminer en baisse de presque de 5% à la Bourse de Paris ce soir. General Motors et dans une moindre mesure Ford sont aussi fortement secoués en ce moment à Wall Street. Il faut dire que ces trois constructeurs ont passé des décennies à penser leur organisation industrielle, leur business model autour de trois pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. 16% des véhicules vendus aux États-Unis cette année ont été ou vont être assemblés au Mexique, l'équivalent de 2,5 millions de voitures, de pick-up, de SUV. Les voitures produites au Canada représenteront quant à elles 7% des ventes. C'est conséquent, hein. Stellantis, par exemple, qui compte à son portefeuille 4 marques américaines, Dodge, Jeep, Chrysler, Ram, et pour qui le marché nord-américain est capital, c'est véritablement sa principale machine à cash, compte au total 12 usines en Amérique du Nord, 7 aux États-Unis, 3 au Mexique, 2 au Canada.
Bon, en bourse, ça tangue un peu. Les constructeurs n'ont pas l'air trop de s'inquiéter pour l'instant.
Non, par exemple, dans l'entourage de Carlos Tavares, on reste très prudent. On ne s'emballe pas. Donald Trump n'est pas encore assis sur son fauteuil. Rien n'est fait. Et il y aura sans doute des négociations au niveau de la branche, nous dit-on. L'ensemble des constructeurs, Ford, General Motors, Stellantis, mais aussi Toyota, Volkswagen, ils sont très nombreux à être concernés, vont discuter avec le président américain de ses futurs droits de douane à partir de janvier. Reste que Stellantis commence, semble-t-il, déjà à revoir certains de ses projets. Selon Bloomberg, il pourrait revenir sur l'extension de son usine mexicaine de Saltillo. C'est dans le nord du pays où il comptait produire des pick-up Ram 1500.
Merci beaucoup Justine. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. Et face aux menaces de ces hausses de tarifs douaniers, on a quand même trouvé un constructeur automobile qui était serein. Aujourd'hui, c'est Toyota. Écoutez le patron de Toyota Europe et vice-président du groupe, Didier Leroy, aujourd'hui.
Aux États-Unis, comme nous le faisons en Europe et dans toutes les régions du monde, nous avons un principe très simple qui consiste à toujours produire localement approximativement 70% de ce que nous vendons. C'est la même chose sur le continent américain. Alors oui, nous avons deux usines au Mexique, mais nous avons aussi beaucoup d'usines aux États-Unis. Vous savez que nous avons construit récemment une usine de batterie aux États-Unis. Donc ça ne change pas la stratégie de Toyota Amérique du Nord. L'usine au Mexique ne livre pas simplement que les États-Unis. Et puis nous verrons effectivement ce que le président Trump décidera sur ces sujets.
Voilà Didier Leroy, le vice-président du groupe et président de Toyota Europe aujourd'hui dans le nord de la France. Sinon, 19h04 dans l'actualité ce soir, c'est la bonne nouvelle du jour. Bruxelles qui a donc validé notre plan de vol pour réduire notre dette et nos déficits au cours des prochaines années. Bonsoir Thomas Asportas. Donc Bruxelles nous croit capable de ramener nos déficits sous la fameuse barre des 3% en 2029. Déjà, comment est-ce qu'on a réussi à convaincre Bruxelles, Thomas?
Bien, la Commission juge que la trajectoire budgétaire de la France est, je cite, sérieuse et crédible, et qu'elle met la dette du pays sur une trajectoire de baisse soutenable ou en tout cas à des niveaux prudent. Ce sont tous les mots employés par la Commission européenne. Bruxelles donne donc quitus à la France sur sa trajectoire de rétablissement des comptes. Elle valide sa trajectoire de dépenses publiques sur les prochaines années. Elle autorise la France à prendre 7 ans au lieu de 4 ans pour revenir sous les 3%, comme pour l'Italie, l'Espagne, la Roumanie et la Finlande. Bercy, évidemment, s'en félicite et considère que le pays, je cite, redresse ses comptes de manière décisive tout en poursuivant ses réformes structurelles. Le ministre Antoine Armand se dit satisfait de constater que la Commission européenne fait une évaluation positive du plan de la France. Ça fait beaucoup d'autosatisfaction, oui. Mais qu'il va falloir quand même un petit peu relativiser. D'une part, parce que des réformes structurelles à venir, il y en a très peu, et les services de Bercy les reconnaissent eux-mêmes. C'est surtout l'amplification et la poursuite de tout ce qui a été fait depuis 2017. Et d'autre part, parce que la Commission a validé les plans de tous les autres pays. Donc littéralement, la France, en fait, n'est en aucun cas une exception.
Et alors, Bruxelles s'est penchée en particulier sur les budgets 2025 des États membres.
Aussi.
Et là, alors, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, on a marqué des points aussi là-dessus. Quoi.
Exactement, exactement. On fait coup double. Non seulement on nous donne 7 ans au lieu de 4 pour revenir sur les 3%, mais en plus on nous félicite pour notre budget 2025, ce qui n'est par exemple pas du tout le cas de l'Allemagne, du Portugal ou encore des Pays-Bas. C'est vraiment le monde à l'envers. Ouais. Sur les 17 budgets que la Commission a évalués, la France fait partie des 8 pays qui ont reçu un avis favorable. La Commission considère que ce budget met la France sur de bons rails, que la dépense publique est maîtrisée. Bruxelles, visiblement, apprécie les 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires vendus par le gouvernement. C'est plus que ce que demandait la Commission. Elle apprécie aussi que le gouvernement veuille faire le plus dur dès l'année prochaine, avec un déficit qui reculerait d'un point de PIB à 5%. C'est toute la stratégie défendue depuis le départ par Matignon et par Bercy. Et visiblement, ça a fonctionné auprès de Bruxelles.
Ben, ça a fonctionné, ça a passé crème. Merci Thomas. Et puis on parle de tout ça avec nos experts, évidemment, dans quelques minutes. Et puis alors, puisqu'on parle budget, sachez que le projet de budget de la Sécurité sociale a été largement adopté au Sénat cet après-midi. Et que Laurent Wauquiez, par ailleurs président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée, a dit avoir trouvé un accord avec les sénateurs LR pour faire quoi ? Pour renoncer, vous savez, à cette contribution censée faire travailler les actifs 7 heures de plus par an, sans rémunération. La droite portera cet abandon demain lors de la réunion d'une commission mixte paritaire consacrée à ce projet de la Sécurité sociale. Et puis alors, puisqu'on parle de Sécu, on voulait dire un mot d'un médicament que vous connaissez tous, qui est encore en partie remboursé par la Sécurité sociale, c'est le Spasfon. Vous avez une grande revue médicale qui vient de dresser une liste de 88 médicaments dont l'efficacité, comme on dit, laisse à désirer. Vous le voyez venir, le Spasfon en fait partie. Hélène Cornet.
Le Spasfon, pas beaucoup plus efficace qu'un placebo. Ce médicament très populaire contre le mal de ventre est autorisé depuis plus de 50 ans. Son efficacité, elle, n'a jamais été réellement prouvée. Il n'est d'ailleurs plus remboursé qu'à 15%, mais il coûte quand même 14 millions d'euros par an à la Sécurité sociale, selon les chiffres de la revue Prescrire. Le Spasfon est produit et commercialisé par le laboratoire Teva, leader mondial des génériques. Le groupe pharmaceutique assure que son médicament a fait l'objet de nombreuses décennies de recherches cliniques. Pourtant, dès 2018, la Haute Autorité de Santé estimait que le service médical rendu était faible, peu efficace donc, mais avec des risques limités, ce qui explique peut-être qu'on le trouve encore dans toutes les armoires à pharmacie. Il est d'ailleurs dans le top 10 des médicaments les plus vendus en France, plus de 26 millions de boîtes chaque année. Dans un souci néanmoins d'efficience et d'économie, certains spécialistes de la santé proposent qu'on en termine avec cette passion franco-française.
Hélène Cornet, en France, toujours c'est confirmé, le gouvernement a proposé aux partenaires sociaux une réunion pour évoquer des aménagements à la réforme des retraites. C'est la ministre du Travail, Agnès Pannosian-Bouvet, qui leur a proposé aujourd'hui, sauf qu'elle n'a pas donné de date pour l'instant. Dans l'actualité des entreprises, Stellantis va fermer un site au Royaume-Uni, à Luton, dans le nord de Londres. Plusieurs centaines d'emplois sont menacés. Stellantis qui discute par ailleurs avec ses syndicats de l'avenir des sites français à horizon 3 ans. En France, en tout cas, aucune fermeture d'usine n'est prévue d'ici là, semble-t-il. Sinon, il semblerait que Nissan cherche un vrai remplaçant à Renault, un nouvel actionnaire capable de l'accompagner sur le long terme à la place de Renault, dont la participation est diluée progressivement. D'après le Financial Times, Honda pourrait reprendre une partie de ce rôle, mais ça pourrait tout aussi bien être une banque ou alors un fonds d'investissement, nous dit le FT. Et puis les certificats d'économie d'énergie au cœur d'une polémique. Le gouvernement français vient d'accuser certains grands groupes énergétiques d'avoir fraudé le dispositif. Les entreprises en question ont très très vite réagi aujourd'hui. Régine Ralech.
C'est clairement de la fraude, martèle dans la presse Olga Givernet, ministre déléguée à l'énergie. Elle accuse 5 entreprises, dont Total Energy et EDF, d'avoir détourné les certificats d'économie d'énergie, un système obligatoire financé par les énergéticiens pour soutenir la transition. Selon elle, ces entreprises auraient demandé des subventions pour des travaux de rénovation surévalués ou non réalisés. Total Energy conteste toute fraude. Isabelle Patrier, directrice France du groupe, indique n'avoir reçu aucune sanction ni amende.
La ministre nous accuse de faits qui ne sont pas avérés. On est dommage collatéral de 2 organismes certifiés agréés par l'État qui ont des calculs différents, qui nous obligent à supprimer et annuler 32 opérations de rénovation énergétique.
Une mise au point similaire, publiée par Dalkia, la filiale d'EDF, précise que des erreurs matérielles non frauduleuses ont été constatées lors de contrôles et que la filiale ne sera soumise à aucune amende. En réponse, la ministre persiste et signe, les entreprises mentionnées feront toutes l'objet de sanctions. Et à ce jour, seule Helios Solutions, spécialiste de la rénovation énergétique, qui a fait l'objet des manquements les plus graves, a été condamnée à une amende de 2 400 000 euros.
Régine Ralech avec nous sur BFM Business. Et puis, grosse journée, gros pareil pour Huawei, le fabricant chinois lance un nouveau smartphone aujourd'hui, mais surtout, ça sera le premier du groupe capable de fonctionner avec un système d'exploitation 100% maison, c'est-à-dire sans Android. C'est un gros pari que fait l'acteur chinois aujourd'hui, Raphaël Couder.
Harmony Next doit permettre à Huawei de complètement s'émanciper de l'américain Google. Depuis 2019 et les premières sanctions américaines à son encontre, le chinois ne peut plus utiliser Android. Il a donc été contraint de sortir son propre système Harmony, basé sur le code open source de Google, mais sans les applications natives. Harmony Next vise aujourd'hui à mettre fin définitivement à cette dépendance et à démontrer plus globalement que les sanctions ne l'ont pas affaibli, mais l'ont au contraire renforcé. D'autant qu'en parallèle, l'ex numéro 1 mondial du secteur a mis les bouchées doubles pour développer ses propres puces électroniques ultra rapides. Huawei ne cache pas son ambition de faire d'Harmony Next le troisième système de référence aux côtés d'iOS et d'Android. Reste pour cela à convaincre les développeurs internationaux d'adapter leurs applications à ce nouvel écosystème. Selon le groupe chinois, 15 000 apps seraient déjà prêtes et opérationnelles. C'est encore bien loin des quelques millions disponibles sur les magasins d'Apple et Google.
Voilà le gros pari de Huawei. D'ailleurs, Raphaël Couder avec nous sur BFM Business, 19h12, on va sur les marchés. Les marchés, Aude-Claire Sulek, bonsoir.
Bonsoir.
Terminé en baisse à la Bourse de Paris.
Et oui, dans le rouge, moins 0,8% pour le CAC 40 après les annonces hier soir de Donald Trump, de mesures de tarifs douaniers, alors qui ne touchent pas directement l'Europe, mais qui touchent des entreprises présentes dans l'indice. Donc l'automobile, par exemple, a fortement reculé. Notamment chez nous à Stellantis, quasiment moins 5% qui va peut-être devoir revoir ses plans. ArcelorMittal aussi très présente au Canada du côté des reculs, moins 3% pour Arcelor. Le luxe a été l'interrogation de la journée, on a ouvert en baisse. Est-ce que l'Europe sera celle qui sera l'objet d'un tweet, d'une mesure future de Donald Trump? En tout cas, finalement, LVMH et Kering se sont redressés dans la journée parmi les seules hausses du jour. 2 étoiles sur le marché, sur l'indice large Trigano qui a publié des résultats annuels très bons, record même, avec une marge opérationnelle à 12,8% et un bénéfice en hausse de 28%. Et puis Lighton, l'introduction du jour à la Bourse de Paris. On est dans l'IA générative, c'est la première entreprise d'IA générative à s'introduire sur la Bourse européenne. Ça a été sursouscrit, donc large demande, plus 12% en clôture, donc plutôt réussi. Voilà, des petites étoiles pour égayer cette journée où ça a été bien rouge.
Merci beaucoup. On regarde ce qui se passe à Wall Street, évidemment, c'est la mission sur le marché américain, le Dow Jones qui perd 0,1%, 44 733 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui est en hausse de 0,6%, 19 171 points. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. Il est bientôt 19h15, nos experts arrivent dans un instant. Beaucoup de choses ce soir. Bruxelles qui nous croit crédible dans notre plan de vol pour réduire dette et déficits, en croit-elle un traître mot? Ça, c'est un sujet, on va poser la question. Donald Trump qui fait déjà du dégât en bourse en disant qu'il ira très vite sur les droits de douane. Et puis, si on a le temps, on dira un petit mot du bouquin d'Angela Merkel. Les mémoires d'Angela Merkel, c'est sorti aujourd'hui. On attendait peut-être un mea culpa sur la trop grande dépendance à la Chine ou au gaz russe. Il n'y a rien de tout ça dans ce pavé de 650 pages. On parle de ça et de plein d'autres choses jusqu'à 20h en direct, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, nous sommes repartis pour un tour. Jusqu'à 20h pour être précis, les experts, deuxième partie, pour refaire toute l'actu éco, évidemment, direct sur BFM Business, comme tous les soirs. Wilfried Galland est revenu, quand même, malgré tout. Rebonsoir, Wilfried.
Avec plaisir, merci.
Directeur de la stratégie de Montpensier Finance, Michel Rumi est avec nous. Bonsoir, Michel.
Bonsoir.
Économiste, consultant chez Lévy Capital Partners. Et Pascal Delima est avec nous. Pascal, bonsoir. Économiste
bonsoir, Guillaume.
De l'innovation. Bon, on a beaucoup de choses, messieurs, ce soir, à commencer par ce qui était la grande question. Est-ce que Bruxelles allait croire en nous? Est-ce que Bruxelles allait croire en la France? Faut croire que oui. Bruxelles a dit oui. Bruxelles a validé la feuille de route de la France pour réduire sa dette et ses déficits dans les prochaines années, et notamment ramener ses déficits sous la fameuse barre des 3% en 2029. Bruxelles nous en croit capable. Est-ce qu'elle en pense un traître mot, Michel, pour vous?
Non.
Ou c'est juste pour ne pas rajouter du chaos au chaos, finalement, cette histoire?
Exactement. L'idée, c'est de savoir comment vous écrivez chaos, parce que c'est le cas de le dire aussi. La question est de se dire, c'est qu'elle ne veut pas créer, à mon sens, une crise européenne et une crise française. Et elle nous donne la possibilité, elle nous donne la chance. Mais l'idée, c'est, est-ce qu'on a la capacité, au-delà de cette décision, c'est de se dire, est-ce qu'il convient pour nous, elle nous laisse la loi, et puis en même temps, pour nos gouvernants, c'est d'être crédible à moyen terme, c'est-à-dire oui. jusqu'à 7 ans encore. Jusqu'à ça. Et la difficulté, c'est ça veut dire aussi qu'elle nous remet aussi dans nos problèmes, parce que ça veut dire deux mandatures, puisqu'en 27, oui. ça veut dire qu'il faudra que le président, les deux présidents soient pro-européens, donc on veut dire qu'il y a, implicitement, il n'y a pas le nouveau Front Populaire, ça nécessite encore d'autres discussions.
Bruxelles ne tient pas compte des aléas, et ils sont nombreux d'ici là.
Enfin, oui, tout à fait. On est d'accord.
Aujourd'hui, ça tient, officiellement, voilà. ça tient la route. Quoi.
Voilà, et donc elle nous donne ça, et l'idée, c'est de nous dire, je vous fais, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire, à gérer, donc je vous laisse. Et il y a d'autres pays et on va voir après. Donc on va voir.
Débrouillez-vous. Voilà. Les Français, débrouillez-vous.
Débrouillons zizi, je pourrais dire ça poliment.
Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que, à mon sens, il y a beaucoup de choses déjà à faire en Europe, avec l'arrivée de Monsieur Trump. Et donc on va essayer de. Pas trop d'agitation.
Réaction ce soir d'Antoine Armand qui se réjouit, je cite, de l'avis favorable de Bruxelles et nous donc. Et non, mais en plus, il y a Standard & Poor's dans 3 jours. Enfin, ça aurait une caisse de résonance absolument épouvantable, Pascal.
Il ne faut pas oublier aussi qu'elle est quand même, la France, c'est comme les agences de notation, sous surveillance.
C'est-à-dire que
la Commission européenne a bien précisé qu'elle allait quand même continuer à voir si effectivement on arrivait à réduire notre train de vie, train de vie de l'État, si on arrivait à faire de la croissance et si on arrivait à faire en sorte que cette croissance enfin dépasse nos taux d'intérêt réels, parce que c'est ça le sujet.
Oui.
On a un malheur, c'est qu'on a réussi quelque part un petit peu à améliorer la trajectoire des finances publiques, mais l'inflation baissant beaucoup, finalement, ça rend les taux d'intérêt un petit peu, je dirais, en défaveur de la trajectoire des finances publiques, puisqu'en face, la croissance n'a pas augmenté. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on parle de consolider les réformes d'assurance chômage, de consolider les réformes d'assurance retraite, de les renforcer, etc. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est quand même de la croissance et de la capacité de l'État à collecter des recettes à partir de deux réformes qui, de façon, on voit très bien leur efficacité que sur du très, 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 très long terme, si vous voulez. Voilà, donc les aléas sont là encore.
Les aléas sont là. Non, pas tout ce blanc-seing est une vaste fumisterie. Enfin, je veux dire, 6,2% de déficit pour cette année en France. Il n'y a que la Roumanie, avec tout le respect qu'on peut avoir pour la Roumanie, qui fait pire dans l'Union européenne aujourd'hui.
En l'occurrence, et Dieu sait que je peux avoir la dent dure parfois sur la trajectoire budgétaire, là, ce n'était pas la question. La question, ce n'était pas ce qu'on allait faire cette année, c'était notre trajectoire budgétaire. C'était ça qui devait être validé. Et donc la question, c'est à partir de ce point-là, est-ce que ce qui est présenté à Bruxelles...
Mais ne serait-ce que pour l'an prochain, ramener le déficit à 5%. Qui peut y croire quand vous voyez un petit peu ce qui va ressortir? Regardez la façon dont est en train de chambouler le budget à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui va ressortir?
Peut-être, effectivement, se distille, on en a parlé ensemble il y a quelques minutes, peut-être se distille qu'avec une crise politique, le gouvernement saute. Si on est, on reconduit le budget nominal à l'identique avec une croissance même faible, en fait, ça nous donnerait un déficit largement sous les 5%. C'est peut-être ça le calcul. En tout cas, le calcul, et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit
Michel. Ah, vous croyez que c'est ça le calcul, peut-être?
C'est
machiavélique, ce que vous dites. C'est que,
en tout cas,
Bruxelles compte sur le fait que le gouvernement va tomber pour qu'on reconduise les crédits et que donc on limite la casse.
En tout cas, ça explique pourquoi est-ce que Bruxelles ne se dit pas, si jamais il y avait un problème de censure du gouvernement, tout serait remis en cause. Non, en fait, on a du temps. En fait, Bruxelles dit, de toute manière, on a du temps sur une trajectoire qui serait pas une mauvaise trajectoire. Donc, de toute manière, laissons le temps au temps. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Michel, c'est que l'objectif de Bruxelles, c'est pas rajouter du drame à la tragédie.
Oui, oui, bah oui.
C'est-à-dire, c'est à un moment donné, on a un sujet français, on sait, de stabilité et en plus de dynamisme économique. Ça a été également très bien exprimé. Il ne faut pas en rajouter aujourd'hui. Donnons-nous du temps. Bruxelles se donne du temps. Bruxelles nous donne du temps. Prenons ce cadeau tel qu'il nous a été fait, même si on sait que c'est peut-être pas pour les meilleures raisons. Mais au minimum, quand on nous fait un cadeau pareil, bon, on le prend. Et puis par contre, à nous de travailler derrière pour continuer ou rebâtir une crédibilité un petit peu inexistante.
On croit qu'il y a un petit effet Michel Barrier en tout ça. Cela dit, on a regardé les marchés, vous avez vu les marchés comme moi, vous avez le spread, le fameux écart de taux avec l'Allemagne qui fait référence, qui est remonté à 81 points. Ouais. Et mine de rien, on est sur un niveau qu'on n'avait pas été chercher quasiment depuis la dissolution. Voilà, donc ça traduit quand même la nervosité des opérateurs.
Oui, mais parce qu'en fait, l'Allemagne elle aussi...
Eux n'y croient pas, personne n'y croit.
La difficulté au niveau européen, c'est que, on va dire... Le moteur est en place d'être changé, notamment l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle retrouve un nouveau modèle économique, qui n'est pas simple.
Après, l'Allemagne n'est pas très fraîche non plus.
Voilà, donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que je dis, elle ne peut pas mettre une autre crise là-dessus. Ouais. Donc elle dit, on va essayer de... de cadrer pour éviter que ça dépasse. Mais l'Allemagne n'est pas là, la France n'est pas au top. Donc si on veut garder l'Europe avec un tant soit peu face avec les velléités et chinoises et américaines, il va falloir faire des efforts importants. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de stratégie d'ajustement budgétaire sur moyen long terme. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on a utilisé pas mal de cartouches en 2025. En 2026, ça va être aussi chaud. Ouais, ouais. Et il faut multiplier ça encore ou additionner.
Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du budget, parce que Wilfried en parlait. Vous avez vu comment depuis quelques heures, les extrêmes et les LFI, Rassemblement National, essaient de nous rassurer depuis quelques heures en mode « Mais si on censure le gouvernement, même si on ne vote pas le budget, il n'y aura pas de shutdown comme aux États-Unis, donc ça ne sera pas le scénario catastrophe. » Tribune de Marine Le Pen dans le Figaro aujourd'hui. Manuel Bompard pour la France Insoumise, un peu sur le même couplet ce matin à la radio, écoutez.
Il faut arrêter ces discours catastrophistes. En France, il n'y a pas de shutdown, comme on dit.
Non, il n'y a pas de shutdown, mais il y a un risque sur les salaires des fonctionnaires.
Non, pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer si le gouvernement tombe au 15 décembre? Il va y avoir la possibilité de mettre en place un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, il aura un grand avantage par rapport au gouvernement précédent, c'est qu'il ne sera pas tenu par le délai constitutionnel de 70 jours pour travailler son budget. Et donc, à partir de ce moment-là, il aura du temps pour mettre en place un nouveau budget. Il n'y a aucun risque de conduire à une situation dans laquelle les fonctionnaires ne sont pas payés ou les services publics ne fonctionnent plus. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge pur et simple.
C'est marrant parce qu'il évoque la date du 15 décembre comme si tout était déjà cousu de fil blanc.
Qu'effectivement, dans le calendrier budgétaire, il y a une date effectivement au 15 décembre, absolument.
Oui, il y a une possibilité la semaine prochaine aussi.
Ce qu'on voit bien, c'est que personne ne veut être qualifié d'ingénieur du chaos.
Oui.
Personne ne veut
Même Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, aujourd'hui, il n'y aura pas de scénario catastrophe.
Mais bien sûr, en revanche, si effectivement c'est le cas, on aura, de façon très claire, une tension sur les taux d'intérêt, une tension sur la dette française, et donc il y aura des répercussions. Évidemment, les fonctionnaires resteront payés. Encore heureux qu'effectivement, on ne va pas mettre complètement le pays à feu et à sang.
Parlement présent, ce qu'on appelle une loi spéciale qui permet de reconduire les crédits automatiquement.
Mais néanmoins, il ne faut pas croire que ce serait un non-événement d'un point de vue financier pour le pays. Et sur la crédibilité politique du pays, c'est véritablement un sujet.
Oui, tout à fait. Alors effectivement,
Pascal,
je concorde tout à fait avec ce qui vient d'être dit. Par ailleurs, évidemment, alors c'est un sujet juridique, mais évidemment qu'il n'y aura pas de problèmes pour les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires.
C'est déjà arrivé qu'un budget ne soit pas voté. Je voyais tout à fait, c'est déjà arrivé. En 1980, c'est déjà arrivé.
Arrivé en 1980. Oui. Par ailleurs, il y a d'ailleurs, rappelons-le, le 49-3. Effectivement, ça nous amène à des décisions politiques.
Non, on peut faire aussi un texte ad hoc. Il faut vérifier la constitutionnalité.
Oui, tout à fait. La constitutionnalité, c'est un élément important aussi. Moi, je crois que ça révèle plusieurs choses sur le terrain économique. C'est d'abord un vrai blocage aujourd'hui à faire de la politique économique, tout simplement. Si on revient sur le terrain plus macroéconomique. C'est ça, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut être crédible sur les investissements d'avenir? Comment est-ce qu'on peut être crédible sur des réformes, même sur les retraites, l'assurance chômage? Quand, justement, on vient à l'instant de parler de crédibilité vis-à-vis de la Commission européenne, et puis derrière, à travers ce shutdown, qui est une parodie, en fait. C'est un spectacle, d'ailleurs, intéressant.
Même aux États-Unis.
Tout à fait. On est en train de dire, en gros, qu'on est dans un système bloqué, finalement, quelque part, quand même. Donc, même si c'est pas par rapport aux fonctionnaires où on est catastrophiste, ou par rapport au budget de l'État, à la capacité de financement de l'État,
pour retraiter, enfin,
tout on est quand même sur des sujets de fond aujourd'hui, sur la trajectoire budgétaire à travers ce que révèle cette polémique sur le shutdown.
Mais je sais pas vous, dans l'esprit de ce que vous disiez, mais je n'aime pas voir les politiques minimiser ce genre de situation. Non,
exactement. C'est un véritable sujet, déjà, de ne pas réussir à s'entendre à minima sur des mesures qui sont pas des mesures très très structurelles, hein, comme ça a été expliqué. Et d'autre part, ça montre que on n'a pas non plus pris complètement la mesure du fait que il faut, au-delà même de la fameuse trajectoire budgétaire et des chiffres sur le tableur Excel, il faut réussir à retrouver un élan de prospérité sur le pays. Ça nous dit que globalement, il y a plus de pilotes dans l'avion. C'est quand même, enfin, c'est un message qui n'est pas très bon. Il faut pas tout attendre de l'État, bien sûr, mais dans un pays aussi centralisé où l'État est aussi important que la France, dire alors qu'on est dans une trajectoire économique globale, pas uniquement budgétaire, je trouve qu'on parle trop de budget, économique, on est dans une trajectoire économique qui est très inquiétante sur ces derniers mois, il faut arriver à retrouver un élan. Et cet élan-là, si on le casse encore plus, ça va être difficile pour les acteurs privés de prendre leur lait.
Michel, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les décideurs économiques ont besoin de la confiance et d'une stabilité politique et d'une visibilité. Si on ne sait pas à quelle sauce la fiscalité va arriver dans les prochaines années, et en même temps, l'incertitude politique qui est aussi est facteur aussi de pour la consommation, on va avoir après pour faire partir et dire qu'aujourd'hui on creuse d'une certaine manière la difficulté du prochain ou de l'actuel Premier ministre à être crédible et à inspirer de la confiance. Parce que là, au-delà des aspects de chiffres, c'est surtout aujourd'hui les personnes ont besoin d'avoir confiance, de dire où je vais, et surtout ça peut être source de tensions sociales qui peuvent être très difficiles.
Mais je retiens ce que vous me dites ce soir, contrairement à ce que disent les politiques, voilà, ça ne serait pas une catastrophe. Ça ne serait pas non plus complètement neutre sur le niveau de taux d'intérêt.
C'est un vrai sujet.
Ok.
C'est les conséquences en termes d'image, en fait, qui sont importantes.
Eh ben, nos amis politiques, visiblement, n'ont pas pris en compte ce paramètre, pas suffisamment pour le moment. Il est 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti, 19h34 jusqu'à 20h sans pub avec nos experts, avec Pascal Delima, avec Wilfried Galland, avec Michel Rumi. On va parler de Donald Trump, donc ça y est, a commencé à dégoupiller, vous l'avez vu sur les droits de douane, la 17 nuit, moi président, le 20 janvier.
Dans quel sens dégoupiller
Dans le mauvais sens. Pour le Canada, pour le Mexique, il a dit, dans les heures qui suivent mon entrée en fonction, j'augmente les droits de douane sur tous les produits canadiens et mexicains, 25% sur le sol américain. L'Europe, pour l'instant, est épargnée, mais elle va devoir rester soudée. On sent qu'il y a un certain consensus au niveau de la classe politique à ce sujet. Écoutez, par exemple, tiens, Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National ce matin sur le sujet.
Les nations n'ont pas d'amis. Les nations n'ont que des intérêts, et ces intérêts, ils doivent être défendus. Donc une fois qu'on a ces concepts qui me paraissent très simples et très clairs du général de Gaulle, on a une bonne politique économique, on a une bonne politique diplomatique. L'Europe, c'est le pigeon de la mondialisation, ils continuent, ils sont complètement obsolètes dans leur doctrine, et on voit bien que les États-Unis, ils ont conforté leur avantage commercial, ils ont aussi conforté leur avantage énergétique.
Bon, notre tour viendra, on n'était pas dans la liste de Trump cette nuit, mais ça va venir assurément, Michel, dans la foulée. Toute l'Europe, peut-être qu'on va cibler, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Wilfried, peut-être l'Allemagne, puis la France, puis chacun va prendre son droit.
En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Trump ne craint pas de réanimer les guerres commerciales. Alors concernant le Mexique et le Canada, c'est en fait le fait que l'USMCA agreement, c'est-à-dire
l'accord de libre-échange,
fait que en fait il doit être renégocié en 2026. Donc il met la pression et leur dit attention là.
Il l'avait déjà négocié pendant son premier mandat, NAFTA, il me semble.
Mais ils ont pas le choix, ils dépendent des États-Unis. Quant à l'Europe, en fait, elle va être pris en étau entre la Chine et les États-Unis, et la grande difficulté, c'est que on pourra pas remonter les taxes parce que derrière on va avoir des problèmes dans les industries, notamment, et pour la France ça va être les spiritueux et le luxe, et donc ça peut poser des problèmes.
Les spiritueux et les vins pour nous, les voitures allemandes pour l'Allemagne, enfin voilà.
Tout à fait.
Est-ce qu'il peut y avoir un front uni de l'Europe aussi? C'est une question qu'on se pose.
Un front uni de l'Europe, c'est compliqué. D'abord, les États-Unis ont un gros avantage.
Ça veut dire non, ça, Pascal?
Ben, je vais vous dire, c'est-à-dire que non, mais les États-Unis ont un gros avantage, c'est que ayant un système politique uni, on va dire fédéral, avec la possibilité d'imposer des droits de douane par produit, par pays, de faire ce qu'on appelle le protectionnisme intelligent, entre guillemets. Nous, en Europe, si on veut imposer un droit de douane, par exemple, sur l'agriculture, vous devez l'imposer à la majorité qualifiée. Et en plus, un droit de douane unique n'est pas dans les intérêts de tous. Pourquoi ? Parce que chaque pays a des avantages comparatifs différents. Donc, on ne peut pas se protéger efficacement aujourd'hui, même via un protectionnisme intelligent. Il y a des choses
sur les normes environnementales, mais qui coûtent cher. Il y a des choses sur des normes un peu quantitatives, on va dire, par-ci, par-là. Mais indiscutablement, face aux crises géopolitiques qu'on vit aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se reconstituer un pôle progressivement. Et je pense même d'ailleurs que c'est stratégique vis-à-vis du Canada et du Mexique, parce que derrière aussi, ils vont pouvoir avoir un peu plus la main mise et faire pression sur ce qu'ils appellent l'Amérique avec un grand A. Et donc, on voit très bien ce qui est en train de se passer. Mais d'un autre côté, c'est l'antithèse. Il y a toujours quelque chose de positif quand même dans ce qui se passe. C'est que finalement,
on vous écoute
aussi
attentivement là.
Oui, mais ça peut reconfigurer un tout petit peu aussi les espaces. On parle beaucoup de réindustrialiser les pays. Comment voulez-vous réindustrialiser si on ne se protège pas un minimum? Ça fera peut-être réagir l'Europe. On parle beaucoup de circuits courts. On parle beaucoup des métiers de demain, des innovations dans un cadre plus protégé. Bah allons-y. Moi, je dis qu'on est en phase de transition où ça pose des vraies questions économiques.
Ils sont en train de nous vendre l'heure du sursaut européen. Bien voilà. L'Europe qui réagit dans la difficulté, dans l'adversité. Vous y croyez au grand sursaut européen ou pas vous,
bah, en tout cas, je l'espère.
Mais ça aussi, ça veut dire non. Voilà, c'est pareil.
Ce qui est intéressant.
Ça prend du temps.
Ce qui est intéressant, c'est il y a une réaction tout à l'heure d'un sénateur de l'Iowa qui est Chuck Grassley, sénateur républicain, je précise, interrogé sur ce sujet-là des droits de douane, qui a dit il ne s'agit pas de déclencher une guerre commerciale, il s'agit d'avoir une position de départ de négociation. Et je pense qu'il faut mettre ça en lumière avec ce que Donald Trump a toujours pratiqué, c'est-à-dire se mettre dans une position de force tout de suite pour pouvoir ensuite agiter un certain nombre d'éléments qui vont permettre peut-être de trouver des accords qui seront des accords bilatéraux, donc c'est là où l'Europe c'est compliqué, mais qui seront des accords bilatéraux mais qui permettront d'éviter justement une guerre commerciale. Donc ne tombons pas non plus dans le piège de ça y est, c'est bon, c'est déclenché. En fait, il déclare ça, en plus il est toujours pas au pouvoir, donc il se met en fait dans une situation de surplomb en fait par rapport à cette situation-là. Et on a vu tout de suite par exemple que Justin Trudeau, le premier ministre canadien, a dit j'ai eu une conversation avec Donald Trump, ça a été très constructif. Et donc il n'est pas du tout impossible qu'effectivement on ait un certain nombre d'éléments qui soient moins inquiétants in fine que ce qu'on peut aujourd'hui dire en regardant juste les déclarations de Donald Trump.
Une conversation entre Donald Trump et Justin Trudeau. Réaction de la Chine: une personne ne gagnera une guerre commerciale. La Chine estime que la coopération commerciale et économique entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique par nature. Voilà ce
que dit
la Chine.
Il faut voir, c'est que le modèle chinois est aujourd'hui en difficulté dans la mesure où il y a la faiblesse du marché intérieur, donc ils dépendent beaucoup des exportations, et que ce qui serait intéressant, et toujours dans la poursuite de la réflexion de Wilfried, c'est que ce qui serait intéressant de voir, c'est ce à quoi les Chinois sont prêts à faire des concessions, et à quel niveau, et parce que ça va être une négociation à ce niveau-là. Oui. Et je pense que ça peut être intéressant, parce que tous les deux ont intérêt à que ça marche, parce que la Chine a des difficultés intérieures, et les États-Unis aussi. Donc c'est ça qui est, très, à mon sens, intéressant. L'Europe, on va être, on va dire, derrière, mais c'est au niveau de la Chine et des États-Unis, comment ils vont s'arranger. Et le problème, c'est qu'on risque d'être un dindon de la face, peut-être.
Oui, Pascal, pas oublier que les droits de douane sur les produits manufacturés et agricoles imposés par l'Europe vis-à-vis de l'Asie sont plus faibles que ceux imposés vis-à-vis des États-Unis. Oui. Alors, je ne me fais pas l'avocat du diable, hein, mais est-ce qu'on a intérêt aussi à ne pas se disputer, pour le dire basiquement, avec un allié historique, surtout dans un contexte géopolitique actuel?
Voilà, déclaration du Mexique, les droits de douane n'arrêteront pas la migration ni les drogues. Il fait référence notamment, vous savez, à cette histoire de fentanyl, la Chine qui fait venir vers le Mexique la molécule, le princeps qui sert à fabriquer le fentanyl que les cartels mexicains expédient vers les États-Unis derrière.
C'est un sujet absolument majeur.
C'est un sujet absolument majeur et passionnant, et ça date pas d'hier. Voilà,
et faut pas oublier en plus que le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a créé sa notoriété avec le fameux livre Hillbilly Elegy, qui raconte justement comment est-ce que dans les endroits les plus déshérités de l'Amérique, pour calmer les douleurs et apaiser les angoisses, on a généré cette addiction aux opioïdes qui fait un dégât, mais qui est absolument considérable.
Les images sont impressionnantes quand on voit les images.
Et donc, il est important pour Donald Trump tout de suite, là aussi, c'est une histoire de posture tout de suite, de dire j'ai pris la mesure des choses. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque au Mexique? Oui, évidemment, il y a l'automobile. Mais c'est d'abord pour dire j'ai pris en compte le fait que mon électorat ne veut pas que des molécules qui sont dangereuses et qui tue le tissu social américain continue à arriver. Électoralement parlant, et même d'un point de vue social américain, s'il arrive au minimum à casser un certain nombre de filières, on ne pourra lui en être que reconnaissant.
Électoralement parlant, c'est très porteur. Oui, Michel.
Ce que je voulais dire, c'est le tissu social, mais aussi les travailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une part de la population active qui est, on va dire,
au bord de la route. Aussi, voilà. Hein,
et la question qui va se poser, c'est si j'ai pas la force active ou les forces vives du pays, il faut que je fasse appel à des travailleurs étrangers, ce qui peut se poser d'autres problèmes. Et j'attire l'attention que le fentanyl aussi commence à intégrer aussi le marché du Canada, et ouais. ça peut poser aussi des problèmes.
Bon, enfin, en tout cas, les propos de Donald Trump qu'on fait un petit peu de vilain en bourse, comme on dit. Vous avez l'action Stellantis, notamment, qui a perdu quasiment 5%, puis des groupes américains qui sont attaqués du côté de Wall Street à l'heure actuelle. Alors, puisqu'on parle de Stellantis, vous savez qu'il y a eu des premières discussions aujourd'hui entre la direction et les syndicats sur l'évolution à 3 ans des sites français du groupe. C'était évidemment très attendu compte tenu de ce qui se passe aussi chez Volkswagen. Alors, a priori, il n'y aura pas de fermeture dans les 3 ans à venir de sites français. Mais il y a des sites sur lesquels vous avez des inquiétudes. Vous avez du chômage partiel qui se prolonge. Vous avez des sites qui ont très bien su se transformer, comme Rennes, par exemple. Puis d'autres sites sur lesquels vous avez des inquiétudes, comme Poissy notamment, ou un autre site, celui d'Ouvrin dans le Nord, qui fait des moteurs thermiques. Donc là, il va y avoir un sujet forcément à horizon de quelques années. Peut-être pas avant 2027-2028, mais la question va se poser, hein, Pascal, évidemment.
Bien sûr. La question va se poser pour 3 raisons. La concurrence mondiale, l'arrivée de la Chine en puissance sur le véhicule électrique, l'évolution des habitudes des consommateurs, l'automatisation également, qui contrairement à ce qu'on le dit très souvent, n'enrichit pas les métiers, mais au contraire, se substitue à toutes les chaînes de production que vous voyez là. Ça, c'est pour l'immédiat. Et puis l'avenir, c'est la transition, c'est-à-dire c'est d'aller vers les métiers de demain dans l'automobile. Et là, il y a des investissements à faire. Alors, je sais qu'il y a STLA, la plateforme qui a vocation, qui a été très 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 modernisée, qu'on a après desquelles on a beaucoup investi côté Stellantis. Et donc ça, c'est vraiment l'avenir. Sauf qu'on a du retard sur les batteries, on a du retard sur les chaînes de production, on a du retard, on a encore des chaînes d'approvisionnement.
On avait le débat hier soir de savoir s'il fallait s'évertuer à concurrencer les Chinois sur les batteries électriques. Enfin, ça, c'est
si on se protège sujet, pas, il y a une logique économique. J'ai du mal à comprendre.
Mais déjà l'histoire des sites. Vous avez vu, Stellantis annonçait cet après-midi qu'il fermait un site à Luton, dans le nord de Londres. Là, c'est plusieurs centaines d'emplois menacés. Voilà, c'est. La question va finir par se poser. C'est pareil.
On a l'exemple typique. De la folie réglementaire et de la moraline dégoulinante qui a cassé une industrie pour laquelle l'Europe était une industrie était un leader mondial. C'est-à-dire que en fait
on s'est mis dedans tout seul. Voilà,
on a forcé les constructeurs automobiles à faire des investissements considérables pour produire des voitures que à ce jour, compte tenu à la fois de l'infrastructure et des qualités intrinsèques des voitures, que les consommateurs ne veulent pas acheter à ce prix-là. Ils ne veulent pas l'acheter. Et donc, il y a un véritable problème de marché qui s'atrophie. On est véritablement dans un marché qui est en train de baisser de façon structurelle. Et donc, s'adapter à un marché qui baisse de façon structurelle, c'est extraordinairement douloureux. Et en plus, avec des calendriers qui sont totalement délirants. Donc, c'est vraiment une idée de comment est-ce qu'on protège notre tissu industriel, mais en regardant également ce que demandent les consommateurs, pas uniquement en disant je veux produire. Si vous produisez sans avoir de demande en face, ça donne des pays qu'on a tous étudiés dans les années 50 et ça marche pas bien.
On va les atténuer, ces échéances, on va les atténuer, ces calendriers.
C'est obligatoire.
Des choses.
C'est obligatoire.
Michel.
Oui, des petites choses. Stellantis va perdre 20% de baisse cette année, donc ça nécessite aussi des restructurations. Première des choses. Deuxième chose, c'est que on voit la réaction de Trump. Il est Stellantis veut fermer une usine dans l'Ohio, et Trump lui a dit si vous fermez, on vous met des taxes de 100%, donc vous allez rester.
Il a tapé clairement sur Stellantis pendant la campagne. Oui, bien sûr.
Et troisième chose, moi, qui fait, c'est que pendant un certain temps, on dépendait du pétrole du Moyen-Orient, et là maintenant, on va dépendre d'une autre matière première, c'est on va dire les batteries de Chine notamment. Donc, en fait, on passe de changement de dépendance, on va dire, et c'est ça qui va convient de voir. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'a pas, et ça va un peu dans le sens de ce qu'a dit Wilfried, de dire, mais on n'a pas réfléchi tout ça à Bruxelles pour dire voilà comment on se débrouille, quoi.
Voilà pour Stellantis.
C'est plein de bonnes nouvelles.
On va fond dans les bonnes nouvelles ce soir, effectivement. Ces discussions qui vont commencer chez Stellantis, qui a donc par ailleurs annoncé la fermeture de cette usine à Luton. On est dans le nord de Londres. Angela Merkel, qui publie ses mémoires aujourd'hui. C'est un pavé, hein. Il fait 650 pages le bouquin, ça s'appelle Liberté. C'était très attendu parce que l'Allemagne, on en parle quasiment tous les jours, vous savez, a perdu beaucoup de ses repères en l'espace de quelques années, sur le plan commercial, sur le plan énergétique, sur le plan de la défense. Et donc beaucoup se demandaient s'il y aurait chez Angela Merkel une espèce de mea culpa sur la Chine. Est-ce qu'on s'est trop reposé sur la Chine? Est-ce qu'on s'est trop reposé sur le gaz russe? Il n'y a rien de tout ça. Sur la dépendance à la Chine, il n'y a pas grand-chose. Sur la dépendance au gaz russe, elle le dit, ce problème, nous l'aurions eu si nous avions commencé dès 2014 à réduire la part de nos importations de gaz russe. À l'époque, toutefois, il aurait été plus difficile de le faire accepter qu'au moment où nous sommes entrés en guerre en 2022. Donc, pas de mea culpa du tout d'Angela Merkel. Elle a tout fait comme il fallait, finalement. Voilà.
Oui, alors, évidemment, d'abord, un petit clin d'œil à celui qui, probablement, s'est précipité chez le dernier relieur en cuir de Paris pour le faire dorer sur tranche, Marc Fiorentino, dont c'est bien connu, mon cher Marc, s'il nous écoute, que Angela Merkel est son idole. Effectivement, on a cette espèce de satisfecit de la part d'Angela Merkel, qui peut se comprendre sur un certain nombre de points, mais qui montre que l'Allemagne d'Angela Merkel était au bout d'un modèle qui était un modèle qui a été extraordinairement performant, qui était le modèle d'Adenauer, d'une certaine manière. Ouais. C'est-à-dire, je maintiens l'équilibre, j'essaie d'avoir une approche où je suis conscient du poids de l'histoire et de faire les choses de façon très progressive, sans rien bousculer. Aujourd'hui, on a changé de monde. Et dès la fin d'Angela Merkel, on sentait qu'on était en train de changer de monde, mais son mode de fonctionnement, son histoire aussi, ne lui permettait pas aussi de fonctionner différemment. Là, l'Allemagne est forcée de changer. On va voir si la nouvelle majorité qui va se dégager des urnes en février, va dégager quelque chose de différent. Il faut que l'Allemagne change.
Vous passez un peu vite sur Angela Merkel. Est-ce que vous la dédouanez de toute responsabilité? Est-ce que vous dites...
C'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde et elle n'avait pas été capable de le voir.
Son prédécesseur a fait le sale boulot, les réformes au début des années 2000. Elle n'a fait qu'expédier, gérer les affaires courantes. Est-ce que vous dites ça, en gros, quoi? Voilà.
Elle a géré la trajectoire. Elle l'a bien gérée, mais elle n'a que géré la trajectoire.
Schröder a fait le sale boulot, elle a géré la trajectoire. C'est ce que vous dites. Michel, vous êtes d'accord ou pas avec ça, vous?
Oui, mais surtout qu'elle a eu un temps long. Elle a eu 16 ans. Donc, oui. On peut dire qu'elle a eu le temps de pouvoir éventuellement faire des choses, bien sûr. Le Covid a montré ses limites. Mais je pense que, si je reviens sur le livre, c'est pas un livre pour des fans de politique ou pour les historiens.
Alors c'est people.
Non. Et donc c'est ce qui convient de voir.
Parce qu'elle rencontre aussi ses rencontres avec Poutine, voilà. Avec Trump.
La question qui se pose, c'est elle l'a écrit pour qui et pourquoi? Parce que c'est ça la question.
Maintenant?
Oui. Après, alors la question est là parce que si c'est un livre de mémoire, on veut laisser une trace, on essaye d'expliquer. Mais à ce niveau-là, je pense que faut pas y voir grand-chose. Je pense que faut mettre avec l'effet miroir avec un autre livre d'Angela Merkel qui était l'OVNI politique écrit par Martin von Drentengen, qui disait en fait pour comprendre Merkel, faut savoir d'où elle vient pour voir comment elle a travaillé. Et donc je pense que la lecture en doublon peut expliquer certaines choses là-dessus. Et non pas uniquement de faire là-dessus uniquement 700 pages là-dessus. Alors rien que pour ça, c'est que il semblerait que l'éditeur a voulu faire en deux tomes et elle a dit ma vie se sépare pas en deux, c'est un bloc, c'est 700 pages.
Donc ça nous fait un pavé de 650 pages. Ouais. Accrochez-vous évidemment. Enfin,
deux livres sur Angela Merkel, c'est peut-être beaucoup.
Non,
vous voulez faire la fois. Hein. Elle a dit la première partie c'était en RDA, la deuxième c'est en.
Oui, vous faites deux livres de 300 pages, il n'y a que ça, c'est pas compliqué. Pascal, comment
vous... Non mais effectivement, alors je l'ai pas lu, mais effectivement.
Non, c'est vrai que le timing interroge à l'heure où on parle beaucoup de l'Allemagne, que l'Allemagne est partie pour faire 2 ans de récession. On sent effectivement que c'était la fin d'un modèle, comme le dit.
La fin d'un modèle, mais alors il y a le cas Volkswagen quand même, qui est un cas très concret de la fin d'un modèle vers l'Allemagne, c'est sûr. Moi, je retiendrai quand même. Alors c'est vrai. Bon, elle a beaucoup, longtemps vécu en RDA, effectivement. Donc elle a été très inspirée par cette thèse un peu de l'ordo, libéralisme, l'austérité, la rigueur. Donc ça, on l'a ressenti, effectivement, et elle a été une des rares à avoir réussi à concilier austérité et croissance économique. Hein. Mmh. C'est un truc de... Nous, on a très rarement réussi à le faire. Ce lien entre austérité et croissance économique, dans le prolongement des lois Hertz, effectivement. Bon, évidemment, elle a un rôle quand même
C'était le frein à l'endettement aussi, c'est pas elle, quoi.
C'était le frein à l'endettement, et aussi, effectivement, maintenant, je retiens quand même sa volonté de sortir totalement de l'énergie nucléaire. Je pense que c'est peut-être une erreur parce que ça a consolidé, à mon avis, quand même, la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe et des énergies russes. Cette volonté de sortir carrément du nucléaire, je pense que ça a été une petite erreur de minimiser l'Europe de la défense aussi. Je pense que sur le terrain visionnaire et géopolitique, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire de négatif, quoi, si je pense, en tout cas.
Oui, je
pour prendre aussi le contexte de l'époque.
J'adore effectivement cette litote absolue qui est, je pense qu'effectivement la sortie du nucléaire est une petite erreur allemande. Oui, effectivement. Là, nous sommes dans l'épure de la litote. Je ne peux que souscrire.
Vous avez vu que Friedrich Merz, donc qui sera le candidat de la CDU, lui dit si moi chancelier, on reviendra au nucléaire. Dans quelle proportion, je ne sais pas.
Ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les bonnes applications énergétiques, c'est que dès que, et ça arrive assez fréquemment, il y a pas beaucoup de vent et en hiver il y a pas beaucoup de soleil. Oui. L'Allemagne importe énormément d'électricité du nucléaire français.
Oui.
Et donc effectivement, elle ne tient que par le nucléaire français. En fait.
Oui. Michel. Oui.
Oui, mais il faut pas oublier que l'Allemagne c'est le principal partenaire français. Donc là, c'est pour ça que d'un certain côté, quand on revient toujours avec l'Europe, c'est pas un couple, parce que pour moi il y a des tensions dans le couple, mais c'est l'idée, c'est qu'en fait il y a le moteur et la France qui vont mal. Et donc ça n'augure rien de bon par la suite. Donc,
le couple franco-allemand va mal, l'Allemagne va mal, et on est en 2024, l'Allemagne a vu toutes ses certitudes voler en éclats, on ne sait toujours pas quel sera le futur modèle économique de l'Allemagne.
Exactement.
Avec Friedrich Merz, on voit que s'il y a déjà un peu plus de volonté de s'extirper en particulier d'une certaine mainmise des écologistes sur en particulier la production énergétique allemande. Et ne serait-ce que ça pourrait effectivement relancer un certain nombre de choses en Allemagne. Après, il reste énormément de choses sur les infrastructures, sur la demande intérieure. Il y a beaucoup de choses à faire en Allemagne. Mais ne serait-ce que déjà cet élément qui est central pourrait permettre de redonner un certain élan et d'avoir en plus une vraie unité entre la France et l'Allemagne sur un sujet particulier qui était un des sujets de cœur du début de la construction européenne. Hein. La construction européenne, au début, il y avait Euratom, communauté de charbon et de l'acier, tout le monde en a parlé, mais il y avait Euratom qui existe en plus toujours.
Hein. Absolument.
Les infrastructures du numérique aussi.
Numérique,
un retard, l'Allemagne considérable. Bon,
on verra. Ça sera en février prochain, effectivement, ces élections en Allemagne. Anticiper les élections, oui. Puis après, il faudra former une coalition. Oui. Ça peut durer. Donc
ça peut durer quelques semaines.
Oui, ça peut durer.
Je pense aussi qu'il y a un problème, un paramètre qu'il faut comprendre, c'est que pendant 20 ans, on a eu un certain schéma de pensée avec les exportations et en même temps le pétrole russe. Là, il va falloir changer. Et donc, même les mentalités doivent changer. Et ça, je suis un peu moins certain.
On va peut-être regarder un peu plus du côté de l'Europe désormais en Allemagne. Allez, 19h53, c'est l'extra time pour terminer, comme tous les soirs. Vos avis, coup de gueule, coup de cœur, 30 secondes, vous en faites strictement ce que vous voulez. Vous connaissez la règle. Pascal, est-ce que vous voulez commencer?
Je veux bien commencer.
30 secondes.
Une petite règle de base d'économie, des variations, la dérivée première. C'est pas parce qu'un groupe fait des profits, parce que j'entends toujours, ah oui, cette industrie automobile fait beaucoup de profits et licencie, mais on n'attend pas d'être en faillite pour rationaliser les inputs, comme on dit. Et donc, c'est la variation du profit qui fait qu'on prend des décisions en variation d'effectifs. Je pense que c'est un peu de pédagogie économique qui pourrait éclairer deux, trois.
Et c'est bien, on est là pour ça aussi sur BFM Business, pour le faire au quotidien. C'était le coup de gueule de Pascal de Lima ce soir sur BFM Business. Qui continue? Michel Rumi, ah oui. 30 secondes.
Allez, alors
Michel,
moi, 30 secondes, c'est plutôt anecdotique. parce qu'il y a certaines études qui montrent que les bulles ont une durée de entre 5 et 6 ans. Donc ça fait 60 et 72 mois. Donc je me dis aujourd'hui, le Bitcoin est à 90, bon, il est légèrement fléchi et tout. Et je me mets en 2018, mi-décembre, il était à 3 200 $. Et donc je me dis, est-ce qu'on va pas, du coup, la fin d'un cycle, peut-être, on va faire. C'est purement anecdotique. Oui. L'idée est que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2018 aux États-Unis, il y avait Trump, oui. Mais il n'était pas chaud là-dessus. Oui. Maintenant, et il là, est chaud. Là, donc ça peut changer complètement la donne.
3 200 $ en 2018.
Oui, oui. Mi-décembre.
Et oui, si on avait su, c'est toujours pareil, évidemment. Wilfried Galland, 30 secondes, mon cher Wilfried, c'est à vous.
Bien, 30 secondes pour parler de ce que je pense être l'angle mort. On en a un petit peu parlé de la politique économique de Donald Trump, sur laquelle il va vraiment falloir se pencher, c'est l'immigration. Ouais. Parce que l'immigration, c'est à la fois ce qui permet au marché du travail américain de continuer à fonctionner. Donc, s'il arrête l'immigration ou s'il enlève des blocs, effectivement, d'immigrés clandestins, ça peut avoir un énorme impact. Ouais. Et le deuxième élément, c'est que ça a un impact sur le reste de l'Amérique latine, parce que je rappelle que l'argent envoyé au Mexique, c'est 60 milliards de dollars par an, c'est plus que les exportations mexicaines aux États-Unis.
Ah oui, effectivement.
Et qu'il faut mettre
l'argent envoyé au Mexique par les communautés d'origine mexicaine, c'est 60 milliards de dollars par an, c'est plus que les exportations annuelles.
Là, il nous a parlé droit de douane, il nous a pas encore parlé immigration, voilà. Faut me dire, il est là, il est dans deux mois, donc on a encore le temps, mais effectivement.
Et pour toute l'Amérique latine, en fait, on a des chiffres qui sont très impressionnants. Si ça bloque, voilà.
Il faut mettre en parallèle avec la consommation de fentanyl dans la population.
Eh oui, c'est un vrai sujet, effectivement. C'est terminé pour ce soir. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de BFM Business pour participer aux experts du soir. Pascal de Lima, économiste de l'innovation, Wilfried Galland, directeur de la stratégie de Montpensier Finance, Michel Rumi, économiste consultant chez Lévy Capital Partners. Merci messieurs, à très vite avec plaisir. Merci. Pour de nouvelles aventures. Merci. 19h56, Tekkenco, François Sorel arrive dans un instant. Et nous on se retrouve bien sûr demain soir 18h en direct pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business, à demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.